Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
C'est un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour, encore quelques jours à attendre avant de retrouver les salles de cinéma, mais il reste encore eh bien, de nombreux plaisirs en attendant que les professionnels eh bien, s'entendent avec le gouvernement pour savoir eh bien, comment accueillir les spectateurs. Alors cette semaine encore, on vous propose un détour vers les DVD et puis la VOD. Bonjour Guillaume, bonjour Manu.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, toi Guillaume, c'est un film de castagne et d'oignon.
C'est ça, c'est Cyborg. Avec un titre clair et net d'Albert Pyun.
Et avec Jean-Claude Van Damme. Et puis toi Manu, autre chose, un autre genre.
Un autre genre, un film religieux, enfin pas vraiment en fait, hein, Thérèse de Alain Cavalier. Et puis je vous parlerai d'un livre sorti chez Rouge Profond, le Teen Horror.
Et bien ce livre donnera l'occasion, en tout cas le thème donnera l'occasion de jouer un blind test spécial Teen Horror. Évidemment ce seront eh bien 5 extraits de films dont il faudra deviner le titre. Et puis Marine sera encore avec nous, même de loin. Elle nous parlera d'un documentaire qu'elle a beaucoup aimé, ça s'appelle Les Dames, c'est un documentaire suisse. Mais on va débuter avec l'Amérique du 21e siècle, sauvée de l'anarchie et de la peste par les nions de Van Damme. C'est Cyborg.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
J'aime la mort. J'aime la misère. C'est ce monde que j'aime!
Est-ce que vous le sentez, hein, ce bon parfum du vidéoclub qui vient se loger dans vos narines? Alors ce mois-ci, c'est l'occasion de se procurer une jolie Madeleine de Proust pour tous ceux pour qui bande magnétique et importance d'une jaquette riment avec des heures de recherche à travers des rayonnages et une chasse au titre le plus suggestif. Là, il n'est pas question d'un Steven Spielberg ou d'un John McTiernan, voire même d'un Yann de Bont ou d'un Stephen Hopkins. Non, aujourd'hui, on tape le plus bas, hein, dans la rangée des réalisateurs n'ayant jamais connu les honneurs d'une grosse sortie en salle ou d'un événement publicitaire majeur. Aujourd'hui, va être question donc d'un de ces artisans inconnus du grand public, mais chéris par une niche bien particulière de cinéphages qui ne reculaient jamais devant aucune promesse de boîtier VHS pour illuminer leur soirée devant leur télé 4 tiers. L'homme du jour, c'est Albert Pyun et l'un de ses titres phares, le bien nommé Cyborg. Enfin, bien nommé. Le cyborg du titre n'est en fait pas le héros. Hein. Le héros, c'est Pearl, détentrice d'informations importantes qui va essayer de rejoindre Atlanta. Si elle y arrive, elle pourra aider un petit groupe de scientifiques à concevoir un remède contre le virus qui a décimé une très grande partie de l'humanité. Pour ce faire, elle ne va pas devoir compter sur Olivier Véran, mais sur plus fort encore, Jean-Claude Van Damme, et oui, héros solitaire et en peine depuis le massacre de sa famille, et qui va profiter de ce sursaut de bonne action pour régler son compte au grand méchant de l'histoire, aux trousses donc de Pearl, l'affreux Fender. Jean-Claude, enfin Gibson Rickenbacker, bah car oui, dans ce film, tout le monde ici porte des noms de guitare, c'est plus rock'n'roll. Donc à l'instar de Mac Rockantansky, c'est un ange de la vengeance caché sous les oripeaux d'un homme sensible et encore humain, contrairement à beaucoup d'autres dans ce monde, qui est devenu un immense dépotoir avec option coupe-gorge à chaque coin de poubelle. Ben ouais, la peste, ça n'aide pas. Hein. Prends-en de la graine, coronavirus.
La peste a détruit tout ce que nous aimions. Elle a détruit l'humanité. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'espoir. Alors il faut faire quelque chose.
Vous allez me dire que, bon, ça va, on l'a vu 40 fois ton film. Hein. Il y a eu les sous-Mad Max italiens, avec leur Exterminator de l'an 3000, ou leur Texas Gladiator de 2020. Il y a eu la version française aussi, avec Johnny Hallyday, son Terminus de sinistre mémoire. Et il y a même eu les déclinaisons en animé avec Ken le Survivant de Bjornsson, ou le plus vieux Violence Jack de Go Nagai. Eh bien, même si on peut trouver des qualités plus ou moins évidentes ou présentes à ces titres précités, aucun n'a bénéficié du savoir-faire d'Albert Pyun. Albert Pyun, ce n'est pas un artiste, c'est un artisan, ce qui veut dire qu'il ne va jamais essayer d'élever son film plus haut que le plaisir du spectateur. Tout dévoué à ce qu'il peut délivrer à l'écran, il ne va avoir de cesse de réfléchir où poser sa caméra dans un angle original et comment le faire raccorder de manière percutante, alors c'est le cas de le dire, un mawashi latéral de notre bon vieux Jean-Claude dans la tête d'un méchant infortuné. Bon, il est méchant, donc il avait cherché. Cet homme, dont la filmographie dépasse les 50 titres en presque 40 années d'activité, je pense que c'est quand même des comptes assez monstrueux, c'est un véritable doré de la pellicule. Pour lui, un petit budget rime avec inventivité et le mot contrainte est un trampoline tout entier dédié à sa créativité. C'est ça qui fait la différence entre un simple bis sans trop d'envergure et un Albert Pyun des grands jours. Donnez-lui 3 semaines de tournage et il vous signe un film hors du lot qui va valoir à lui seul la carte de location. Capable d'enchaîner une centaine de plans en une seule journée de tournage, le plus incroyable dans tout ça, c'est que ce n'est jamais au détriment de la qualité d'un découpage souvent redoutable et d'idées de cadrage n'ayant souvent rien à envier à des productions bien plus luxueuses. Ah oui, bien sûr, parfois, il y a des ratés, ou des choix artistiques étonnants. Donc, pour qui a vu Mean Guns, par exemple, avec Christophe Lambert et Ice-T, on s'étonnera de voir des tueurs à gages enfermés dans une prison s'étriper sur une bande-son résolument mambo. Pour Cyborg, le plan absolument improbable à la base était de faire un film post-apocalyptique en noir et blanc, une comédie musicale muette uniquement rythmée par du heavy metal. Alors, il faudra revoir sa copie, Albert, à cause des producteurs, les tauliers de la célèbre firme Canon, vont un petit peu serrer les vis, et Van Damme viendra lui-même en post-production apporter sa patte experte de monteur pour recentrer les combats. Il n'empêche que les images, toutes iconiques et efficaces, étaient quand même déjà au rendez-vous, et pour livrer l'un des meilleurs produits de la fin des années 80.
Tu dois avoir l'habitude.
L'habitude de quoi?
De tuer.
C'est ce monde qui veut ça, j'y suis pour rien.
Donc s'il fallait une preuve que l'audace et le culot paient toujours, Cyborg n'a justement pas vu son champ d'action être limité à cette période et nous pouvons bénéficier aujourd'hui d'une édition très impressionnante sortie conjointement chez Lionheart Edition et ESC. Vous y retrouverez dans un boîtier imitant une cassette vidéo, un master sublime, le director's cut d'Albert Pyun inédit et intégralement sous-titré, mais aussi une reproduction de la bande dessinée d'époque et plein d'autres surprises comme une nouvelle et magnifique affiche commandée exprès pour l'occasion à Laurent Melki, le célébrissime dessinateur et illustrateur qui n'a rien perdu de son immense talent. Cette édition étant très limitée, il va falloir se battre, mais une version plus simple, conservant tous les bonus vidéo, est aussi disponible dès à présent dans toutes les bonnes enseignes. Donc voilà, il est temps de ranger sa vieille VHS sur l'étagère des pièces de collection. Cyborg n'a jamais été aussi beau et puissant qu'au XXIe siècle.
On peut vaincre la peste et t'en as rien à cirer? Mais t'es une ordure, dis-moi.
Personne t'empêche d'aller la sauver.
Bien sûr que je vais y aller.
Donc ça, c'était Van Damme dans toute sa splendeur dans les années, évidemment, 90, juste avant les années 90. Voilà pourquoi tu faisais référence énormément à la VHS.
C'est le moment où il explosait, en fait. Parce qu'il venait de finir Bloodsport, Kickboxer était en route. Donc là, c'est vraiment les années décisives quoi, qui allaient faire de lui une méga star des vidéoclubs et puis après du cinéma.
Et t'as raison de dire que ça faisait choper, effectivement, les cartes de vidéoclub. Un peu plus que Thérèse, je crois, de Alain Cavalier, l'évocation de la vie de Thérèse de Lisieux, carmélite, qui mourut de la tuberculose en 1897. Et c'est toi, Manu, qui nous en parle.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Donner 2 de ses filles au couvent, c'est un honneur.
C'est tout?
Ce n'est pas forcément un bonheur. Cela dit, je suis très fier d'elle.
Alors tu vas être fier de moi aussi. Je suis amoureuse de Jésus, je vais l'épouser.
Tu t'ennuies avec moi?
Il m'a choisi. Il me tend les bras.
Tu rêves.
Il me court après. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je voudrais prier, sauver beaucoup, beaucoup de gens pour lui avec lui.
Tu es trop jeune, trop fragile. Tu seras refusé. Tu ne connais rien à rien.
Il sait tout, lui. Il m'apprendra.
C'était un film qui était fait très confidentiellement et pour un public que l'on voyait relativement restreint, pas rare mais restreint, se confiait en 1986 Alain Cavalier à Serge Danet dans l'émission Microfilm diffusée sur France Culture. Alors le succès critique et public de Thérèse, qui remporta quand même le prix du jury à Cannes et plusieurs Césars, dont celui du meilleur film, ne cesse d'étonner lorsqu'on le revoit aujourd'hui. Alors comment une œuvre aussi dépouillée et minimaliste a-t-elle pu toucher autant de monde à l'époque sans pour autant effleurer un parfum de scandale? Alors peut-être en raison de ce refus de choquer, mais aussi de prendre le genre à rebrousse-poil, de se défaire de la grande œuvre à géographie mystique et austère à la Dreyère. Thérèse se visionne pour ce qu'il est. Une chronique sidérante évoquant partiellement la vie de Thérèse Martin, donc entrée au Carmel de Lisieux avec ses 3 sœurs et morte d'une tuberculose en 1897. Cavalier évacue d'emblée la question religieuse, Thérèse n'étant ni une bondieuserie prosélyte, ni un pamphlet anticlérical. Il regarde la religion comme une pratique curieuse et hallucinée, avec ses codes répétitifs et ses rites désuets, parfois un brin sadique. La quête mystique de Thérèse est au fond prosaïque, telle une midinette. Elle est une adolescente exaltée comme tant d'autres qui va littéralement tomber amoureuse d'un homme, Jésus-Christ, fantasme iconique et inaccessible, un peu comme une rockstar. Alors ce sujet délicat est transcendé par la bienveillance d'un auteur qui ne cherche pas à comprendre son héroïne au sens psychologique du terme, mais à l'aimer tendrement et progressivement.
Je connais cette ville comme ma poche, je ne veux pas de scandale. Je vous fiche mon billet que c'est en train de voir Thérèse en Clermel. On le dira encore. J'ai entendu de mes propres oreilles. Monsieur Martin, il a la bougeotte, il adore voyager, il se débarrasse de ses filles.
C'est horrible.
C'est ainsi.
Le monde est ignoble.
Je ne donnerai pas mon consentement avant 3 ans.
Je mourrai avant.
Vous n'avez pas l'âge de ces austérités-là. C'est très dur, le Carmel. Vous devriez être au courant.
J'y viens pour soulever des montagnes.
La prière nous avait encouragés.
On s'agite de partout.
On me presse. Il n'y a pas le feu.
Mais si vous voulez aller jusqu'à l'évêque, n'hésitez pas. Si c'est moi qui décide, c'est non. Définitivement.
Alain Cavalier rentre dans son film de chambre, hein, filmé en vase clos par petites touches, à tâtons, comme s'il hésitait à s'immiscer à l'intérieur d'une intimité qui dépasse l'entendement des communs des mortels. Il le traduit merveilleusement par sa mise en scène, certes épurée, mais évolutive et d'une grande richesse. Le début est marqué par une succession de fondus enchaînés, scandés par un montage nerveux, liant parfois difficilement les scènes entre elles. L'absence de fluidité des enchaînements tient à la fois de la position intrusive du cinéaste, mais aussi de la détermination et l'excitation de l'héroïne d'entrer au couvent envers et contre tous. Alors face au scepticisme de son entourage familial et au refus de certains religieux, elle ira au bout de sa démarche, prenant rendez-vous même avec le pape au Vatican. Alors passé cette première partie, involontairement libérée d'une progression dramatique conventionnelle, par son découpage inhabituel, la forme s'assouplit, les plans fixes s'inscrivent dans la durée avec une prédilection pour les cadrages très serrés au début pour s'élargir vers la fin, retrouvant alors une scénographie picturale stupéfiante rappelant les toiles de Georges de la Tour. Le décor se réduit à sa plus simple expression, un lit, une chaise, des ustensiles de travail se suffisent à eux-mêmes. Le film évolue comme une sorte de work in progress. La puissance esthétique, notamment dominée par la photo absolument magnifique de Philippe Rousselot, n'étouffe jamais une œuvre profondément humaine, curieusement très terre-à-terre, décrivant des petits bouts de femmes comme les autres, comme des autres en fait, à l'intérieur d'un environnement extraordinaire. Alors cette dimension terrestre est incarnée par les tâches, les fonctions exercées par les nonnes au travail, couture, cuisine, lessive, aide aux personnes âgées. La documentation très précise apporte une véracité, une certaine profondeur au protagoniste. Progressivement, un sentiment de familiarité nous lie au personnage. La circulation de la parole dans une langue aussi familière qu'insolite finit même par toucher, attendrir. L'apport de Camille de Casabianca, fille du cinéaste, alors âgée d'une 20aine d'années, n'est sans doute pas anodin. Les dialogues, malicieux et souvent drôles, transforment une histoire religieuse classique en une sorte de teen movie, touché par la grâce, mais empreint d'une trivialité jubilatoire. Alors pour un peu, parfois, on se croirait chez Bruno Dumont.
On est tombé sur la tête. On en passe pour un type qui est mort il y a 2000 ans. On n'est même pas sûr qu'il existe.
Mais si.
Ça, c'est de l'imagination. Si vous saviez ce que je fais la nuit, ça ne vous rend pas sourde? Je m'en veux. Vous lui enlevez seulement un peu de sa part. Je suis très sévère avec moi. J'en ai mis partout. Vous croyez que ça a le charme? Je l'aime bien un peu vache, sinon c'est la débandade.
La réussite absolue de ce film magique, un véritable tournant dans la carrière d'un cinéaste qui va d'ailleurs progressivement abandonner le cinéma narratif pour lequel il ne se sentait pas très à l'aise, n'existerait pas sans la présence magnétique de Catherine Mouchet, véritable révélation qui elle aussi a remporté le César du meilleur espoir en 87. Alors, avant une prochaine sortie qui est repoussée en salle le 21 janvier 2021, si tout va bien, le film est désormais disponible depuis le 25 novembre en DVD Blu-ray chez Tamasa, reprenant d'ailleurs l'intégralité des bonus précédents de l'édition Arte, mais l'enrichissant d'un livret de 72 pages, scénario et découpage plan par plan du film par Carmen Fernandez et Catherine Shapira.
Merci Manu, donc tu parlais d'une teen movie religieuse, c'est ça?
Oui, c'est un peu curieux, que je l'avais pas vu comme ça à l'époque, mais ça m'a un peu frappé, la manière dont discutent les jeunes filles à l'intérieur du couvent, ça désacralise je trouve un petit peu le film, quand elles en parlent, elles sont amoureuses du Christ, quoi, elles frétillent, et c'est très très bizarre ces passages d'ailleurs.
Alors du teen movie religieux, on passera au teen horror movie lors d'un blind test qui clôturera cette émission. Mais avant, on fait un détour vers un documentaire suisse, Les Dames, qui ouvre la porte sur l'intimité de 5 sexagénaires qui mènent au jour le jour un discret combat contre la solitude. Et c'est Marine qui nous en parle.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique.
Ah ben, j'ai mis mon nom, mon âge quand même. J'ai qu'on mettait pas l'âge.
On met l'âge, mais on met pas la date de naissance.
Qui vous ennuie, si vous ennuie.
Bah écoutez, ça me catalogue, hein. On avait dit retraités, nous.
Les Dames, c'est un documentaire attachant qui suit le quotidien d'une poignée de femmes retraitées qui ont tout en commun de ne pas avoir d'hommes dans leur vie. Elles sont soit veuves, soit divorcées, soit célibataires et font face en solo au troisième acte de leur existence. Portrait croisé de femmes normales, c'est important de le souligner, qui n'ont pas connu de destin hors du commun et qui se réinventent. Ce documentaire suisse fait la part belle aux héroïnes du quotidien qui nous entourent sans pourtant qu'on leur prête attention.
Ce qui manque le plus, c'est la tendresse, quoi. C'est même pas la sexualité, c'est d'être regardée, d'être prise dans les bras, d'être... Enfin, la plupart de mes congénères de 60 ans, elles en sont même qu'à moi. Hein.
On m'a dit il y a pas longtemps que j'avais pas l'air d'une veuve. Et je trouve ça horrible de dire ça à quelqu'un, parce que moi, je me donne beaucoup de peine de prendre les choses comme elles viennent. Mais je ne peux pas jouer à la veuve, c'est tout. Je ne peux pas.
Moi, je me suis établi la liste de la femme idéale.
Ah.
Et ça, c'est le principe de la loi d'attraction.
La femme idéale, j'aime bien.
Ouais, bah écoute.
On est tous en train de rêver, quoi.
Il faut rêver.
Les réalisatrices Stéphanie Chua et Véronique Raymond, qui avaient déjà réalisé ensemble, entre autres, le film La Petite Chambre, expliquent qu'elles ont réalisé au moment de la sortie de ce film que le public des cinémas l'après-midi était constitué en grande majorité de femmes retraitées. Et je confirme, hein, lorsque je vais moi-même au cinéma à 13h, eh bien je suis souvent en effet la seule personne de la salle à avoir encore une activité professionnelle. Or, si les femmes retraitées sont présentes dans la salle, eh bien à l'écran, elles sont en revanche extrêmement invisibilisées, absentes du paysage du cinéma français, absentes des médias. Le documentaire s'intéresse donc à ces femmes, à leurs aspirations, à leurs rêves, leurs désirs, davantage qu'à leur passé. Et il est assez intéressant de constater que dans cette génération, pourtant encore empreinte de domination masculine, eh bien ces femmes souvent optent pour une solitude choisie, goûtant ainsi à une indépendance tardive, après s'être pour la plupart consacrées à leur mari toute leur vie. Et pourtant, cela ne les empêche pas non plus de continuer à rêver au prince charmant, permettant au documentaire d'aborder les questions encore taboues de l'affection et de la sexualité chez les seniors. Ces dames font de la photo, du sport, du tir au pistolet, même, bref, se réinventent un quotidien et une troisième partie de vie bien remplie. Si le documentaire s'ouvre sur un bal du dimanche après-midi dans une salle des fêtes, puis dévoile l'intérieur des appartements dans lesquels vivent les protagonistes, on quitte progressivement cette ambiance quelque peu claustrophobe pour évoluer vers une atmosphère très lumineuse, en extérieur, dans la nature, comme pour symboliser l'envol de ces femmes. L'intensité de l'émotion s'accroît au fil du film, lorsque l'une d'entre elles décide par exemple de braver sa peur du vertige en prenant le téléphérique seule, lorsque l'on recueille aussi les confidences d'une dame qui explique avoir trouvé de la compagnie en expérimentant les amours saphiques, ou encore lorsqu'une autre raconte qu'elle vient de tomber amoureuse pour la deuxième fois de sa vie à 70 ans. Et puis le documentaire a le mérite de rappeler discrètement à quel point le droit des femmes a évolué au cours du demi-siècle dernier. Une intervenante, par exemple, rappelle au détour d'une conversation qu'elle n'avait pas le droit de vote dans ses jeunes années et qu'elle n'avait pas de compte en banque non plus. C'est en tout cas un très beau documentaire, simple, touchant, juste, qui sait saisir la vérité de ces cinq protagonistes. C'est un très beau portrait de ces dames qui sont encore femme.
Oh, j'adore. Tu sais à qui c'est pensé? Harrison Ford, je te jure.
Oh non, il est moins bien.
Ah non, regarde. Oh non, là, si tu fais comme ça.
Harrison Ford.
Ah ouais.
Je trouve que notre société est mal fichue. Parce que maintenant, les femmes devraient prendre des hommes plus jeunes. Parce que les femmes vieillissent mieux que les hommes.
Les Dames, encore des femmes, documentaire suisse, c'est disponible alors en e-cinéma, ce n'est pas en VOD, ça veut dire qu'il n'est pas disponible partout, ce n'est pas une sortie qui est sur toutes les plateformes. Donc à vous de vous renseigner pour voir où ce film est diffusé, ce sont des questions de droit. Maintenant, nous allons passer à un livre que vous pourriez tout à fait offrir pour ces fêtes de fin d'année, et ça concerne les Teen Horror Movie, l'occasion de jouer à un blind test.
Cinérama.
Oh non, ça suffit, de quoi s'agit-il, d'une blague?
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Merci.
Alors après un essai audacieux consacré aux torture porn, car délesté de la moindre illustration, préférant tabler sur une forme consciente d'austérité, Pascal Francex poursuit son exploration du cinéma horrifique contemporain, s'adressant à un jeune public avec Teen Horror, toujours publié chez Rouge Profond, un des rares éditeurs contemporains qui se consacre entièrement au cinéma de genre, le plus souvent, mais Aux côtés d'ouvrages sur Inoshiro Honda, Frix ou Jess Franco, on trouve aussi à l'honneur des cinéastes comme Bruno Dumont, Nanni Moretti ou Terrence Malick. Alors cette fois, Pascal Fransex, reconnu aussi pour son travail de romancier, n'a pas lésiné sur les photos, aérant son ouvrage de plus de 400 pages, passionnant de la première ligne à la dernière. Alors sous-titré de Scream à It Follows, Teen Horror est une passionnante réflexion sur un sous-genre décrié, fortement représenté par le slasher. L'intérêt de cette étude singulière qui prend le contre-pied des habituels ouvrages sur le genre tourné vers le passé est de rassembler un corpus de films récents, peu étudiés et souvent déconsidérés par une critique au réflexe passéiste. Alors à travers un large panel de productions récentes, évoquant pour la plupart des œuvres très connues, Pascal Fransex tourne le dos à l'analyse classique pour s'interroger sur l'évolution d'un genre en parallèle aux mutations d'une société contemporaine. La sexualité, le féminisme, les valeurs familiales, la sororité sont passées au crible de ce passionnant essai s'appuyant sur des textes universitaires américains. Alors il bouscule aussi nos a priori, remet en question régulièrement nos jugements établis liés à des conventions esthétiques et morales. Il suffit de lire tout le chapitre consacré au remake récent, où l'auteur propose une nouvelle grille de lecture passionnante déplaçant notre curseur. Alors ce qui paraît réactionnaire l'est peut-être moins que prévu, et à contrario, des films reconnus pour leur approche progressive comme Scream ne sont pas aussi libéraux qu'ils le laissent entendre en apparence. Alors cette singulière approche théorique d'un cinéma oublié interpelle, intrigue, mais se dévore comme un roman, donne furieusement envie de redonner une seconde chance à des films que, d'ailleurs, que je n'avais pas du tout aimé à l'origine, comme le remake des Griffes de la Nuit, qu'il défend énormément. Bon, il faut que je le revoie parce que franchement, j'avais trouvé ça très mauvais. Alors, ni hautain, ni universitaire, ni consensuel, ni complaisant, Teen Horror s'avère juste un livre sincère, brillant et souvent à contre-courant, remarquablement bien écrit et équilibré. Alors, saluons aussi le travail iconographique riche et sobre, une constante chez Rouge Profond, initiée par Guy Astic au début des années 2000 et qui compte donc aujourd'hui quand même un catalogue de plus de 200 ouvrages.
À vous de regarder ce catalogue et j'espère que vous avez aussi révisé un peu bien votre connaissance sur les teen horror movies, vu qu'on l'a annoncé en début d'émission, c'était tout à fait possible. Sachant que ça va être un blind test à mon avis assez facile. Pourquoi je dis que c'est facile? Eh bien écoutez.
Vous aimez les films qui font peur? Uh-huh. Quel est votre préféré?
J'en sais trop rien.
Mais si, le premier qui vous vient à l'esprit.
Halloween. Celui où une espèce de dingue qui porte un masque blanc s'en prend à des jeunes babysitters.
Ah, oui.
Et le vôtre?
Devinez.
Les Griffes de la Nuit.
Avec le type qui a des lames de couteau à la place des doigts?
Ouais, Freddy Krueger.
Freddy, oui, c'est ça. J'ai bien aimé celui-là. Ça faisait vraiment peur.
Le premier, oui. Les autres étaient craignos.
Oui, c'est vrai. Vous avez un petit ami?
Non. Pourquoi? Vous voulez me demander en mariage?
Peut-être. Vous avez un petit ami?
Non.
J'ignore toujours votre nom.
Ça vous avancerait à quoi de le connaître?
J'aime bien savoir qui je regarde.
Alors, évidemment, ça a été trouvé.
C'est Scream de Wes Craven.
Film de 96, entre comédie et slasher, ça a été un événement et finalement à sa sortie, un serial killer commet des crimes en portant un masque de fantôme. Et Sidney Prescott, qui est menacé, se demande bien qui ça peut être. Le spectateur aussi, évidemment. 2,2 millions d'entrées en France. Et puis, il y aura trois suites quand même qui sortent au cinéma. Une série télévisée et puis plusieurs parodies. Le fameux Scary Movie.
Qui est à la base le titre d'origine du script de Kevin Williamson.
Ah, d'accord.
C'est ça qui est assez amusant.
Deuxième extrait de ce blind test spécial Teen Horror.
Cette chose, elle va te suivre partout. Quelqu'un me l'a refilé. Et moi, je te l'ai refilé. Dans la voiture. Elle pourra ressembler à quelqu'un que tu connais. Ou à un inconnu dans la foule. Tout ce qui l'aidera à s'approcher de toi. Ça peut être n'importe qui. Mais il n'y en a qu'une.
Ça a été trouvé, Guillaume.
Oui, c'est It Follows.
Écrit et réalisé par David Robert Mitchell, sorti en 2015. Après une expérience sexuelle apparemment anodine, Jess se retrouve confronté à d'étranges visions et l'inextricable, pas facile à dire, impression que quelqu'un ou quelque chose la suit. Et abasourdi, Jay et ses amis doivent trouver une échappatoire à la menace qui semble les rattraper. C'est quand même plutôt flippant, comme on dit. It Follows a rassemblé 129 953 entrées en France, très précisément. Et puis, alors je ne savais pas d'ailleurs hein, que c'était que l'ouvrage dont tu as parlé était sous-titré de Scream,
The Scream
It Follows.
It Follows, oui.
c'est assez intéressant parce que après, c'est je trouve deux films qui n'ont rien à voir entre eux. David Robert Mitchell cite l'esthétique des films de John Carpenter, notamment Halloween et The Thing comme principale influence pour la mise en scène de son film. Allez, troisième extrait pour ce blind test.
Il y a tout le temps des gens qui cherchent à vendre par là.
Vous connaissiez l'ancien propriétaire ?
Ouais, pas le premier. J'en ai vu passer des tonnes. J'habite ici depuis la guerre.
Quelle guerre ?
Putain, comment ça, quelle guerre ?
Celle avec des soldats en bleu et d'autres en gris. Même qu'il y avait des frères qui se battaient entre eux à cette guerre.
Qu'est-ce que tu te fous de ma gueule ?
Vous lui avez mal parlé.
À cette pute ?
Qu'est-ce que vous dites ?
Je crois qu'on a assez d'essence, en fait.
Assez pour y aller, oui. En revenir, c'est une autre histoire.
Dialogue étonnant entre un pompiste, en fait.
Oui. C'est la cabane dans les bois.
Oui. Donc, comédie horrifique, co-écrite et réalisée par Drew. Alors, on dit Goddard ? On dit Goddard ?
Oui, on doit dire ouais. Ça plus que Godard.
Oui, parce que sinon, ça fait penser à l'autre. Donc, film de 2012. 5 étudiants vont passer quelques jours de vacances dans une cabane forcément isolée et deviennent les victimes d'une famille de zombies, hein, tout en étant surveillés à distance par de mystérieux scientifiques. C'est vrai que c'est un film assez étonnant. 313 000 entrées en France. Il a fait très peu de films, Godard, mais il a fait Sale temps à l'hôtel et le Royal, que j'ai vu il y a peu de temps.
Et qui est très bien, je trouve.
Qui n'a rien à voir avec la cabane dans les bois. Allez, quatrième extrait.
Qui a hérité du pouvoir de Satan ? Ça n'a rien à voir avec Satan, maman. C'est moi. Moi. En me concentrant, je réussis à déplacer les choses. Satan est rusé. Non, maman. Je suis pas la seule dans mon cas. D'autres peuvent le faire. J'ai lu des livres là-dessus. Oh, malheureuse créature, ne sais-tu donc pas que Satan a déjà entrepris en toi son œuvre silencieuse ?
Non, maman. Je le saurai.
Il t'emportera comme il a emporté ton père.
Alors, ça a été trouvé en change d'époque.
Ah, c'est le chef-d'œuvre de Brian De Palma, c'est Carrie.
Au bal du diable, en français. Film donc de 76. Carrie White, le souffre-douleur des élèves de son lycée, découvre qu'elle possède des pouvoirs de télékinésie après les humiliations que lui font subir ses camarades, certains enseignants, et la torture psychologique de sa mère, qui est un peu présente dans cet extrait. 1,2 million d'entrées en France, film considéré effectivement comme un chef-d'œuvre. Dernier extrait de ce blind test, pas forcément un chef-d'œuvre.
Dans la mort, il n'y a ni hasard, ni coïncidence, ni malchance, ni échappatoire. Il faut s'en rendre compte que nous ne sommes que des petites souris que le chat tient par la queue. Tous nos faits et gestes, que ce soit le petit geste anodin ou la bêtise monumentale, le feu rouge où on omet de s'arrêter, les personnes avec qui on couche ou à qui on se refuse, les avions dans lesquels on voyage ou ceux dont on descend, tout cela n'est qu'une part du plan sadique qui mène au cimetière.
Un plan ? Est-ce que ça veut dire que si on fait échouer celui-ci, on déjoue la mort ?
Alex, c'est ce que vous avez fait en descendant de l'avion. Mais la mort de votre ami prouve que la mort n'en a pas fini avec vous.
Ça a été trouvé parce qu'il y avait beaucoup d'indices, Guillaume.
C'était Destination Finale.
Film de James Wong, sorti en 2000. Un lycéen américain part avec sa classe pour Paris, mais au dernier moment, il panique et sort de l'avion, emmenant avec lui quelques camarades. L'avion explose peu de temps après le décollage, mais la mort va poursuivre avec une certaine méthode sa mission, qui est de zigouiller donc tous les survivants. Et puis là, on a cette grosse voix hein, qui nous explique que la mort, effectivement, ne recule devant rien.
La belle voix de Toddy Todd, ouais. Le Candyman en chef.
Et ça fait 823 000 entrées en France. J'aurais pensé que ça aurait dépassé le million, mais peut-être que les suivants l'ont fait. Ainsi s'achève ce blind test sur les teen horror. Il y en a un certain nombre que vous pouvez découvrir. Donc dans l'ouvrage, tu rappelles le titre ?
Teen horror, de Scream à It Follows.
Tout simplement.
Tout simplement.
This is Cinerama.
Je m'excuse, mais c'est aussi simple que ça.
J'ai juste le temps de vous parler du Prix Med. C'est le prix international du documentaire et du reportage méditerranéen. Ça a débuté le 28 novembre et ça s'achèvera le 5 décembre. Donc, il faut faire vite. Donc, c'est habituellement organisé à Marseille. Et bien, cette année, l'événement sera en ligne. Il y a 3 films sélectionnés pour participer à la phase finale du Prix Med qui sont accessibles gratuitement en France chaque jour pendant toute la durée de l'événement. Donc, voilà, il suffit d'avoir une adresse IP en France pour visionner un documentaire. Toutes les infos sont à trouver sur primed.tv.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Mais pour quelle raison ?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon ?
Qu'est-ce que vous racontez ?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est difficile de répondre,
comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie !
La semaine prochaine, on a un semblant de programme, Manu.
Avec la sortie DVD Blu-ray de Lucky Dead, Roger Avary.
Et toi, Guillaume ?
Moi, ce sera Le Gankedi de Justin Curzel, une nouvelle adaptation de l'histoire du fameux bandit.
Et moi, ce sera The Singing Club, film qui aurait dû sortir fin novembre dans les salles, mais qui va passer directement à la télévision, et notamment française.